Chapitre 5. L'incroyable disparition. Je vais essayer d'être clair. Ce qui se passe est si extraordinaire que je ne sais pas par où commencer. Lorsque je me suis réveillée ce matin-là, nous étions seuls dans le compartiment. Pépé Cuvert et moi. Subitement, il s'est dressé sur son lit en criant « Oh, Méphéo, baisez les pieds du sérénisme de Culbert !» Sa tête, en heurtant la couchette du dessus, a fait voler ses lunettes et j'ai compris alors qu'il parlait en dormant. « Où suis-je? Que m'arrive-t-il? Je vous en supplie, ne me cachez rien. »« Du calme, Pépé, ai-je dit. Ce n'est que moi, l'ignoble félon Pharamond. » Sans ses lunettes, Pépé Cuvert n'a pas figure humaine. Bref, il s'est gratté la tête et a déclaré. « Ça ne te dérange pas de te retourner pendant que j'enfile mon pantalon ?» Je croyais rêver. « Allons, Pierre-Paul, a-t-il ajouté. Du cœur, le monde te réclame. » Une particularité de Pépé est qu'il parle de lui à la troisième personne. Un truc latent, paraît-il. D'après mes estimations personnelles, nous devrions arriver dans 1h13. Notre honoré maître fait ses ablutions. Non, je crois qu'il se lave. Il a eu un petit rire ironique. Mon bon Pharamond, toujours le même. Sache pour ta gouverne que ablution vient de abluere, verbe latin signifiant se laver. Par chance, Mathilde revenait du couloir, sa trousse de toilette sous le bras, et le parfum de son dentifrice m'a calmé un peu. Bonjour Rémi. « Bonjour, Pierre-Paul. » J'ai bredouillé quelque chose avant d'essayer vainement de remettre les banquettes en position assise. « C'est drôle, ai-je dit tout à coup. Les affaires du prof ne sont plus sur sa couchette. »« Il les aura emportées avec lui, » a suggéré Pépé. « Quelqu'un pourrait-il me prêter sa brosse à ongles ?»« Non, ai-je dit. Son sac, sa veste, tout. »« C'est vrai, » reconnut Pépé. « Plutôt louche, en effet. » Puis s'adressant à Mathilde. « Voyons, réfléchissons. Avait-il son sac quand tu l'as rencontré ?» Rencontré ? Je croyais qu'il était avec vous. De plus en plus étrange, personne alors ne l'a vu ce matin. Je me permets de rappeler à l'aimable assemblée que nous sommes dans un train, suggéra Pépé. Avant de céder à la panique, quelques déductions s'imposent. Notre maître, quoique pur esprit, doit soit avoir faim quelquefois. Je suis d'avis que nous le cherchions du côté du wagon-restaurant. Impossible, dit Mathilde. Il a été décroché durant la nuit. Bien, dit Pépé. Alors, cédons à la panique. Et il s'assit avec accablement.
« Il doit y avoir une explication, » murmura Mathilde. « Peut-être s'est-il perdu en revenant des toilettes. »
Avec la propreté, l'étourderie et la manie préférée de M. Coruscant, d'une certaine manière, c'était plutôt rassurant. Nous décidâmes d'aller à sa rencontre, chacun dans notre sens. Mathilde et Pépé vers l'avant, moi jusqu'en queue du train. Pendant près d'une demi-heure, nous fouillâmes chaque voiture, réveillant des messieurs en chaussettes, des familles dont les bambins pleuraient, les toilettes aussi, les soufflets, le train tout entier dans ses moindres recoins. Revenus à notre compartiment, il fallut pourtant nous rendre à l'évidence. Monsieur Coruscant avait bel et bien disparu.